Le 22 septembre, Monsanto, nouvellement Bayer, signe un accord d'utilisation pour la technique de modification génétique CRISPR avec le MIT. Le 8 octobre, une autre technique nommée ZFN est achetée cette fois-ci. Les exemples d'acquisition ou d'accord autour de ces nouvelles techniques de modification de l'ADN sont à foison dans l'actualité. Elles concernent presque tous les grands groupes semenciers. Et c'est le sujet de notre une aujourd'hui avec vous, Yves Berthaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous donc, et vous êtes directeur de recherche à l'INRA, au Muséum National d'Histoire Naturelle, ancien membre du Haut Conseil des biotechnologies, dont vous avez démissionné d'ailleurs en février dernier. Les grands groupes semenciers se ruent sur les brevets. Que faut-il en penser? Est-ce que nous sommes entrés dans une nouvelle ère des OGM aujourd'hui?
Oui et non. Une nouvelle ère dans le sens qu'on dispose maintenant d'outils un peu plus précis pour la transformation, mais qui pose toujours autant de problèmes sur des effets, ce qu'on appelle off-target, des effets hors cible, et qui fondamentalement ne changent pas grand-chose dans le sens que on ne peut introduire que des éléments monogéniques ou oligogéniques, c'est-à-dire avec peu de gènes.
Alors, quelles sont ces techniques qui intéressent les industriels? Parce qu'on connaît tous plus ou moins CRISPR, de nom, mais les autres sont inconnus du grand public.
Alors, vous en avez certaines qui sont avec des nucléases. Vous avez les méganucléases, les nucléases à doigt de zinc dont parlait...
C'est quoi les nucléases?
Les nucléases, ce sont donc des enzymes qui coupent l'ADN et qui permettent, quand on va abouter, quand on va rejoindre les deux morceaux, soit de supprimer quelques morceaux, soit d'insérer quelque chose.
C'est des paires de ciseaux, au fond.
Des paires de ciseaux, tout à fait.
Il y en a d'autres?
Il y en a d'autres. Il y a l'éthalène, qui sont utilisés par en particulier la société Cellectis. Il y a les CRISPR, Cas9 ou autres. Et puis, vous avez d'autres systèmes de transformation comme les ODM, Oligonucleotide Directed Mutagenesis, c'est-à-dire qui vont simplement transformer soit l'ADN, le méthylé, soit éventuellement agir sur ce qu'on appelle la chromatine, qui est les protéines qui sont liées à l'ADN.
Donc ça, résumé, c'est la grande famille, la nébuleuse de la modification du vivant aujourd'hui, à peu près ce qu'on peut faire dans tous ces domaines de la génétique.
Voilà, ce sont les nouveaux outils que l'on appelle souvent édition du génome, mais qui fondamentalement donnent toujours des OGM.
Alors, les légumes et les fruits qu'on obtient avec ces outils, est-ce qu'on peut les appeler des OGM ou faut trouver un autre nom?
Biologiquement, ce sont des OGM, puisqu'on est intervenu directement, c'est l'homme qui est intervenu, qui a cassé les cellules, qui a régénéré les plantes, qui a utilisé tout un ensemble d'outils dont la vectorisation pour pouvoir faire agir ces molécules. Et puis ensuite, il y a les aspects juridiques. Et alors là... Vous avez deux situations, la situation américaine qui ne sait pas gérer ça, et donc actuellement le président Obama a demandé depuis 2 ans à ce qu'une nouvelle réglementation soit mise en place, depuis celle des années 2000, et puis au niveau européen, la Cour de justice européenne va être saisie, puisqu'a été saisie récemment par le Conseil d'État français, suite à des questionnements de diverses associations et syndicats agricoles, comme la Confédération paysanne et le réseau semences.
Quelles sont les questions principales justement qu'on se pose aujourd'hui autour de ces techniques?
Alors c'est, faut-il des dossiers complets de type OGM pour une évaluation du risque, puisqu'il y a des tas de mutations et d'épimutations communes aux techniques de transgénèse et d'édition du génome. Vous avez des off-target, des systèmes hors-cible qui sont... des effets non intentionnels, donc dus à ces techniques-là. Derrière, il y a tous les aspects de traçabilité, de détection, pour pouvoir ou non informer le consommateur. Le dernier point qu'il y a à ce propos, c'est le coût supposé des dossiers d'autorisation. Et là, par exemple, récemment, un institut de recherche internationale a montré que le coût des dossiers d'autorisation était environ 20 fois moins élevé que ce qu'annonçaient les entreprises. Donc, fondamentalement, c'est des entreprises qui essayent de rémunérer leurs actionnaires, ce qui est tout à fait normal dans le système néolibéral. Et donc, elles cherchent un nouveau système pour rebondir sur une certaine perte de confiance et un certain Certains désaveux des OGM, même aux États-Unis.
Là, si on vous écoute, pardon, on se rend compte qu'on est loin d'une commercialisation facile. Les points de vue juridiques ne sont pas encore tranchés. Pourquoi une telle course à l'achat de brevets maintenant, alors que l'incertitude est grande pour le futur?
Oui, les industriels se battent vraiment pour posséder ces brevets aujourd'hui.
Oui. Ce qui est normal, on essaye de ne pas injurier l'avenir en essayant de préparer une position de force pour un futur bras de fer où les entreprises vont devoir négocier les unes avec les autres. Mmh. Et comme il n'y a pas, comme dans le système... Si vous reprenez par exemple l'exemple des firmes comme Samsung, Apple, etc., vous vous apercevez qu'ils se sont battus pendant des années jusqu'à obtenir un pool et une paix armée pour pouvoir négocier, se prêter, voilà. Et donc, il n'y a pas encore cette situation dans le domaine semencier. Mmh. Et donc, actuellement, tout le monde doit, ne sachant pas quelle va être la technique qui va être utilisé, qui va donner des résultats, qui va pas avoir d'effets non intentionnels dangereux, au point de vue environnemental par exemple, et elles sont obligées d'essayer de fourbir toutes leurs armes possibles et imaginables. Pour reprendre par exemple l'exemple de CRISPR, qui est le plus cité, vous avez son concurrent, Talen, qui annonce qu'il y a beaucoup moins d'effets non intentionnels, et donc les industriels fassent à ce futur un peu bouché, rassemblent toutes leurs armes.
Est-ce que pendant cette bataille, les scientifiques au moins travaillent à prouver qu'ils maîtrisent bien la technique?
Alors oui, dans les laboratoires de recherche, en effet, ils cherchent à maîtriser. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Par exemple, CRISPR, c'est quand même l'ARN guide. C'est une chimère entre deux ARN, donc il y a beaucoup de problèmes de thermodynamique, de conformation de molécules, etc., qui font que quand vous ciblez quelque chose, c'est pas toujours l'image du missile qui arrive sur le tank et qui l'a détruit, puisqu'on entendait parler tout à l'heure de Mossoul. Ça rate un certain nombre de fois sa cible, et ça a généralement des effets collatéraux. Et tous ces aspects-là doivent être pris en compte et actuellement, les firmes ne savent pas quel est celui qui va sortir du pot. Ouais.
Et c'est l'absence de risque, évidemment, qui pose question aujourd'hui, sur ces technologies sur lesquelles on a évidemment très très peu de recul. Parce que CRISPR, c'est une découverte extrêmement récente.
Oui. Et puis surtout, on n'a pas non plus les lignes directrices pour pouvoir rechercher, par exemple, faire une évaluation du risque en épigénétique. On ne sait pas le faire. L'épigénétique, c'est pas la génétique de l'ADN, mais c'est tout ce qui a trait autour. Et là, pour l'instant, on n'a pas d'outils, on n'a pas de lignes directrices. Mmh. Et en plus, on manque beaucoup d'outils. Par exemple, les séquençages qui permettraient d'évaluer l'absence d'effets non intentionnels à droite à gauche dans le génome. Et fait défaut parce que on doit faire des séquençages qui sont pas très efficaces. Par exemple, un séquençage il y a quelques années avec les nouvelles techniques, on annonçait que c'était un séquençage profond avec 3 ou 4 fois le séquençage. Après, ces dernières années, ça a été une centaine de fois. Et maintenant, on vous parle de séquençage en profondeur avec des milliers de reséquençages des mêmes séquences.
Est-ce que c'est parce que toutes ces questions n'ont pas trouvé de réponse que vous avez démissionné du Haut Conseil des biotechnologies?
C'est parce que ces questions, certains ne voulaient pas aborder et effacer toutes ces questions, comme par exemple l'effet des techniques de vectorisation, l'effet de la régénération des plantes, etc. Et que les off-target, par exemple, étaient signalés dans le document juste en une ligne dans les fiches techniques. Ce qui n'était, et les fiches techniques n'avaient même pas été fournies en décembre lorsqu'on nous a demandé d'approuver, enfin, officiellement, de discuter un rapport d'un groupe de travail.
Donc, pas assez de garde-fou, c'est ça?
Pas assez. Et en fait, on cache la vérité aux citoyens que ce n'est pas si simple que ça. La preuve, c'est que quand vous faites ce genre de technique, vous faites en plusieurs répétitions pour essayer de savoir si la modification que vous avez est due réellement à ce que vous avez ciblé ou si c'est un effet non intentionnel.
Oui, la question de la brevetabilité du vivant, elle est centrale aussi dans toutes ces questions.
Oui, tout à fait.
C'est la façon dont ces grands industriels s'accaparent aussi le monde vivant, tout simplement.
Alors oui, il y a à la fois par ces techniques de type NBT, les New Breeding Techniques, mais aussi par le fait qu'un certain nombre de ces industriels veulent récupérer ce qu'on appelle les gènes natifs, faire des brevets sur des gènes qui existent dans la nature, dont la fonction est connue, etc. Mmh. Et comme globalement dans l'Union européenne, on n'a pas le droit de breveter ça, on essaye de breveter l'utilisation d'eux. Mmh. Et il y a tout un... Un jeu de très difficile.
Et encore peu de débat public, hélas, sur cette question, hein, pourtant qui est absolument cruciale et qui nous engage sur des décennies, évidemment. Hein.
Oui, parce que en fait, un certain nombre de politiques ont pris aussi des décisions. Quand vous voyez l'OPEXT, le président et les vice-présidentes de l'OPEXT vous disent qu'ils ne veulent pas avoir les mêmes problèmes avec les nouvelles techniques qu'avec les OGM. Donc un choix politique a été fait et fondamentalement, ce qui est demandé aux scientifiques, c'est de mettre une petite couche de vernis là-dessus.
Bon, et on n'a pas fini d'en parler en tous les cas. Ça va nous occuper certainement dans de prochaines unes. Merci beaucoup Yves Berthaud pour votre éclairage et Axel, à demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, du soleil et des racines. Des chercheurs coréens viennent de remarquer que lorsque le soleil frappait les feuilles des plantes, eh bien la lumière arrivait jusqu'aux racines. Comme les tiges et les feuilles, les racines de certaines plantes sont également munies de photorécepteurs. Les scientifiques ont donc décidé de tester si ces récepteurs s'activaient sous terre lorsque la plante recevait par-dessus des flashs lumineux. Eh bien la réponse est oui, et cette activation montre que même si la lumière n'arrive pas directement jusqu'aux racines, l'information du flash parcourt la plante et atteint les racines pour modifier la biologie générale de toute la plante. Attention à la tuberculose multirésistante. En 2015, la tuberculose a tué plus de 4900 personnes par jour, soit 1,4 million de morts selon l'OMS, et les souches multirésistantes de la bactérie sont en forte augmentation. Selon les derniers chiffres présentés à Liverpool la semaine dernière, sur les 540 000 personnes éligibles à un traitement efficace contre ces souches résistantes, seulement 20% en ont réellement profité. Une urgence sanitaire pour les experts, avec toujours en ligne de mire la lutte contre la résistance bactérienne qui progresse. Et puis après une courte nuit, vous mangez certainement plus calorique. Cette conclusion s'inscrit dans une lignée récente d'études qui montre que la mauvaise qualité du sommeil pourrait être une des multiples causes des problèmes d'obésité ou de surpoids actuels. Ce travail montre qu'en moyenne, après une nuit courte, les participants ont mangé 350 calories en plus que leur habitude journalière, cherchant de l'énergie en plus justement, des travaux qui confirment le vieil adage que tout le monde connaît, qui dort dîne.